Jésus, le fils de Marie, s'était enfoncé dans l'étendue de sable et de pierre. Un soleil implacable frappe ces lieux désolés sur lesquels souffle un vent chaud qui parfois rend la respiration oppressante. Comme seule protection, les anfractuosités de rochers. Jours torrides et nuits glaciales se succèdent à 40 reprises. L'homme de Nazareth prie, prie sans cesse. Plus il va de l'avant, plus le sens de sa mission se précise. Combien de mois passeront avant qu'il ne retourne dans son pays? Il a laissé sa mère, veuve depuis 5 ans, avant de clore l'atelier dans lequel il avait travaillé de nombreuses années aux côtés de Joseph, que tous appelaient son père. Jésus s'était rendu chez des cousins qui lui avaient assuré, sans comprendre vraiment le sens de son départ, qu'il prendrait soin de Marie, comme cela s'était d'ailleurs toujours fait dans la famille. Maintenant, la faim le tenaille, insidieuse. Alors monte en lui un discours dont il a déjà appris à connaître l'auteur, un discours qui d'habitude l'incite à se tenir à distance de l'appel d'en haut.
Tu prétends être vraiment le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, transforme donc ces pierres en pain, et de cette façon, tu pourras satisfaire ta faim.
Il est écrit, esprit du mal, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu.
Devant les yeux du Nazaréen, pour un instant disparaît alors le désert. Jésus se voit à l'angle des colonnes les plus hautes du temple, et plus forte, la voix retentit dans son âme.
Tu es le Fils de Dieu, pas vrai? Alors jette-toi d'en haut, car il est écrit dans vos livres saints, le Tout-Puissant a donné ordre à ses anges de te protéger, pour que ton pied ne heurte point les pierres du chemin.
Il est également écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.
La terre se présenta enfin comme un plateau, où s'étalaient tous les royaumes, tous les pouvoirs, toutes ces réalités qui séduisent et qui brillent.
Ces choses-là sont à toi, rien qu'à toi. Si tu te prosternes devant moi, et si tu m'adores...
Éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, Dieu seul est digne de l'adoration.
Réduit à rien, l'esprit du mal laissa Jésus en paix, et repartit de par le monde pour y consolider son règne. En Galilée, les événements s'étaient précipités. Le tétrarque Hérode, sous la pression d'Hérodiade, la femme qui vivait avec lui, avait fait jeter Jean le Baptiste dans les prisons de son palais. Dans un premier temps, ce qui intéressait le roi, c'était de museler le prophète, qui ne cessait de crier en toutes occasions, « Le péché est dans la maison d'Hérode, il a épousé la femme de son frère !» Dans le cœur d'Hérodiade, directement mis en cause, la haine traçait son chemin. À ses confidentes, elle disait qu'elle n'aurait de repos que lorsque cette voix se tairait définitivement et sans possibilité de retour.
Tu es folle. Si je fais supprimer le Baptiste, le peuple ne me le pardonnera jamais. Et puis c'est un prophète.
C'est bien ce que je pensais. Tu n'es qu'un couard, un homme sans consistance. Les Romains ont bien raison de te mépriser.
Les Romains n'ont rien à voir là-dedans. Inutile d'insister. Malgré tes sarcasmes, je ne toucherai pas à un cheveu de la tête de Jean. Estime-toi heureuse que j'ai accepté de le faire croupir dans mes cachots.
Hérodiade ne se le tint pas pour dit. La tête du Baptiste, elle la voulait et elle l'aurait. Un soir de fête, lors d'un des nombreux banquets que le roi organisait pour ses amis, afin de se donner des airs de souverain, Hérodiade convainquit sa fille d'interpréter devant Hérode et ses hôtes des danses qu'elle avait apprises chez les Syriens et qui plaisaient au roi. Sur le visage empourpré du monarque, alors que résonnaient flûtes et tambourins, Hérodiade lut la passion et le désir.
Petite, demande-moi ce que tu voudras, même s'il s'agit de la moitié de mon royaume.
La jeune fille, câline, et souriante, s'approcha de sa mère qui lui parla à l'oreille.
Ce que je veux, c'est la tête de Jean-Baptiste.
C'est insensé. Demande-moi des bijoux, des esclaves, je ne sais pas moi. Tiens, un palais pour toi toute seule.
Non, rien d'autre que ce que j'ai déjà demandé.
Sur le visage de ses hôtes, Hérode vit clairement qu'il devait tenir sa promesse. La mort dans l'âme, il appela les chefs de ses gardes et leur ordonna l'exécution du prophète. Ainsi, pour une danse, s'éteignit la voix qui criait dans le désert. La voix de celui dont Jésus disait qu'aucun envoyé de Dieu ne serait jamais plus grand que les Baptistes du Jourdain. La plupart des pêcheurs de Bethsaïda sont déjà rentrés au port après une nuit de dur travail. Le vent s'est levé avant que le jour n'apparaisse et les petites barques les unes après les autres ont déversé dans des paniers d'osier leur maigre cargaison. À quelques pas du rivage, deux hommes s'obstinent encore. L'un d'entre eux, Simon, se fait remarquer par le langage vigoureux et parfois vert qui accompagne les efforts qu'il fait maintenant pour aller le filet. Son frère André, plus jeune de 8 ans, les manches de la tunique retroussées jusqu'au coude, aide de son mieux, mais apparemment, si on en croit les imprécations de Simon, rien n'est fait correctement ni assez vite.
Tu es bien de la race de ce Jésus, dont tu me rabats les oreilles depuis une semaine. Tout dans la tête et rien dans les bras.
André a décidé de ne répondre rien au grognement habituel de son frère. Il le connaît mieux que personne, et sait que derrière la carapace bougonne du patron pêcheur, se cache un cœur plein de générosité et aux ressources insoupçonnées de sensibilité. De fait, Simon a raison. Depuis la rencontre avec Jésus, André n'est plus le même. Disciple dès les premiers jours du prophète Jean, il se trouvait avec son ami Philippe à s'émerveiller de ce qu'il voyait au bord du Jourdain, de ces milliers de personnes venues pour écouter la parole du Baptiste. Ce qui les avait surtout frappés, encore qu'ils n'aient pu entendre grand-chose de la conversation, c'était la dernière phrase qui avait suivi le baptême d'un certain Jésus, charpentier à Nazareth. Ils avaient vu Jean, le visage extasié, s'écrier « J'ai vu, oui, j'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel, tel une colombe, et se poser sur lui, c'est lui le Fils de Dieu. » Jamais les disciples du Baptiste ne l'avaient entendu affirmer plus clairement que le Messie était enfin venu sur la terre d'Israël. S'il était arrivé ceci, il fallait donc le suivre, lui parler, se mettre à son service. Sans plus tarder, André et Philippe avaient mis leurs pas dans ceux du Nazaréen. Entendant leur chuchotement derrière lui, Jésus s'était retourné.
Cherchez-vous quelque chose ?
Un peu décontenancé, Philippe avait balbutié.
Maître, où habites-tu ?
Et simplement, Jésus avait répondu.
Venez donc et voyez vous-même.
Un instant, André avait pensé que le travail l'attendait à Bethsaïda, que Pierre allait une nouvelle fois ameuter le voisinage. La fascination de la personne de Jésus, la perspective de construire avec lui une grande aventure, avait balayé toutes ses appréhensions. Il était donc resté, et depuis cette journée passée ensemble, rien ne comptait plus pour lui que cette parole puissante et neuve qui lui ouvrait des perspectives jamais encore entrevues. Jésus lui avait fait comprendre, ainsi qu'à Philippe et aux jeunes gens qui étaient venus les rejoindre, qu'il leur ferait sous peu connaître ce qu'il attendait d'eux. Avec Nathanaël et un certain nombre d'autres, André était donc dans l'expectative.
Et attrape-le donc plus ferme, rêveur !
André fut une nouvelle fois tiré de ses pensées par la voix bourrue de Simon. Dans le filet pesant, quelques petits poissons de rien du tout, une pêche à nouveau désastreuse, va vous inciter à baisser les bras. Que faire, sinon retourner chez soi et se lamenter avec les autres sur la chance qui va et qui vient. Sur le fond de la plage, à proximité des cabanes du port, une silhouette commençait à se préciser, qui paraissait venir à la hauteur de la barque. Le visage était partiellement caché, mais à la démarche, André reconnut aussitôt Jésus.
Vous n'avez rien péché, n'est-ce pas? Alors faites comme je vous dis. Jetez vos filets un peu plus loin.
Pour qui se prend celui-là? Peut-être connaît-il mieux que nous le métier.
Cependant, subjugué par l'autorité de cette voix, le patron pêcheur fit signe à son frère de l'aider. À nouveau, ils jetèrent le filet dans les flots. Tout d'abord, rien ne se passa. Puis, sans préparation, Simon sentit une intense vibration secouer la corde qui reliait le filet au bateau. De ces vibrations-là, les pêcheurs connaissent le sens, le poisson, et le poisson en quantité. Fébrilement, les deux hommes s'activèrent. Le filet se faisait lourd à leurs bras, presque ankylosé. Alors ils les virent, par dizaines, par centaines, gigotés, lisses et ruisselant d'eau, tous plus beaux et plus gros les uns que les autres. Jamais Simon n'avait opéré une pêche aussi extraordinaire et en si peu de temps. André, lui, pleurait de reconnaissance. Jésus, dont il avait eu l'identité à son frère, avait choisi son chemin pour aller au cœur de Simon. Il l'avait convaincu avec des arguments indiscutables.
Qui es-tu? Toi qui es capable de commander comme ça à la mer?
Je suis Jésus de Nazareth. Toi, tu t'appelles Simon, n'est-ce pas? Désormais, tu seras Pierre. Laisse maintenant tes filets, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Viens, suis-moi.
Ainsi, parcourant la Judée, la Galilée et jusqu'aux confins du pays, Jésus se choisit 12 disciples, comme Pierre, André et Jean, auxquels petit à petit il confia les secrets de ce royaume de Dieu qu'il allait désormais prêcher, après avoir gardé le silence et l'anonymat durant 30 années. La réputation du fils du charpentier devint grande en très peu de temps. Il personnifiait toutes les espérances d'un petit peuple pauvre, affligé des maladies les plus répugnantes, avide de paroles de réconfort. De partout, on prit l'habitude de se poster sur son passage avec qui un enfant souffrant, qui un aveugle de naissance ou un parent perclus d'infirmité. Un jour qu'il cheminait avec ses apôtres vers un village, on vint le chercher pour une petite fille qui se mourait dans la maison de ses parents. Dans le regard du père et de la mère, Jésus lut une telle confiance et un tel désespoir, qu'il accepta sans hésiter d'entrer dans la cour. À l'intérieur, les flûtes de roseaux faisaient entendre le son lugubre des chants de deuil. « Il est inutile que vous dérangiez le maître, la fille était morte depuis une demi-heure. Nous étions là quand elle a rendu le dernier soupir. » La mère s'écroula en gémissant, son mari essayant en vain de la calmer.
« Ne pleurez pas, ami. Votre fille n'est pas morte, elle dort seulement. »
Personne n'osa sourire, par respect pour la famille. Mais ceux qui avaient assisté à la mort de l'enfant ne manquaient pas, en eux-mêmes, de se gausser de ce Jésus qui, pour un charpentier, la prenait d'un peu haut avec les gens. Jésus se rendit seul dans la chambre de la fillette. Effectivement, sur le visage juvénile, la mort avait déjà fait son travail, et le corps se trouvait préparé pour la sépulture. Jésus s'approcha et prit la main de l'enfant. Puis après avoir prié, il dit
« Talitha cum, je te le dis mon enfant, réveille-toi. »
Petit à petit la fillette reprit des couleurs et elle rouvrit les yeux avec une longue expression de surprise. Le Nazaréen la souleva dans ses bras et la porta dehors. Dans la maison de Jaïr, après les gémissements de la mort, ce furent les chansons de la vie retrouvées. De temps en temps, il arrivait à Jésus et à ses disciples de passer quelques jours dans le village dont il était originaire, même si le premier accueil qu'il lui avait réservé avait manqué de chaleur, voire de sympathie. On lui présenta un paralytique étendu sur un lit. Les portes des maisons étant petites, il fallut faire un trou dans le toit de lattes tressées pour faire passer le malade à l'intérieur. Voyant la foi de ceux qui entouraient directement l'infirme, Jésus lui dit
« Ami, aie confiance, tes péchés te sont pardonnés. »
Il y avait parmi les badauds de fins lettrés, experts dans la loi de Moïse, qui, dans leur cœur, réagirent violemment à une phrase qui signifiait que ce Jésus, qu'ils avaient connu enfant puis jeune homme, ne s'attribuait rien moins que les pouvoirs de Dieu. Jésus lisait dans leurs pensées.
Pourquoi vous laissez aller à des idées mauvaises? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche?
Bien. Pour vous montrer que le Fils de l'homme a sur cette terre le pouvoir de pardonner les péchés, voici. Frère, je te l'ordonne, lève-toi. Prends ton grabat et rentre chez toi.
L'homme aussitôt se libéra des liens qui le maintenaient sanglé et devant la foule médusée se mit à danser de joie. Guérisons innombrables quand tout espoir était perdu, don de Dieu arrivant en pluie, Jésus sillonnait la terre d'Israël, en témoignant que l'amour de son Père du ciel pour l'humanité voulait à chaque instant prendre des couleurs de tendresse. Maître, fais ceci pour moi. Rabbi, si tu le veux, mon fils me reviendra. Les apôtres essayaient bien d'endiguer la marée humaine, mais la nouvelle de la présence de Jésus en un lieu ou en un autre se transmettait de bouche à oreille. Il advint donc qu'après avoir accepté de parler, de réconforter, de répondre pendant des heures et des heures, Jésus se trouva avec ses disciples au milieu d'une foule qu'il avait suivie jusqu'en un endroit écarté, loin de toute agglomération. La nuit tombait presque. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit avec un brin d'énervement dans la voix
« Regarde les maîtres, ils s'incrustent. Dis-leur de partir chercher de quoi manger. »
« Ils n'ont pas besoin de partir. » Donnez-leur vous-même de la nourriture.
Mais enfin, Seigneur, il faut être sérieux. Nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. Cela suffira à peine pour nous.
Apportez-moi tout cela.
Jésus fit asseoir tout le monde. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. On le vit lever les yeux au ciel et prononcer une bénédiction. Puis il rompit les pains, les uns après les autres, et les passa à ses disciples. Les disciples le distribuèrent, et entre leurs mains, le don se fit inépuisable. Il y eut du pain pour 10, pour 100, pour 1000. Chacun fut rassasié, et en remplit jusqu'à 12 corbeilles de reste. Ainsi se répétait, après tant d'années, le miracle de la manne que Dieu avait envoyé à son peuple, alors qu'il errait dans le désert.